affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Les pensées que font naître les fleuves sont aujourd'hui bien prosaïques. Si l'on tape le mot « fleuve » dans un moteur de recherche, les principales occurrences relèvent de la géographie physique, agrémentées de considérations économiques, géopolitiques et bien entendu environnementales. Cette manière d'appréhender notre environnement nous conduit à considérer avec une certaine condescendance la façon plus poétique et religieuse avec laquelle les anciennes civilisations appréhendaient les réalités physiques et naturelles, allant jusqu'à diviniser les fleuves ou leur conférer une dimension sacrée. De la sorte, peut-être faisons-nous toutefois fausse route. C'est en tout cas ce que conduit à penser les contributions d'un colloque consacré aux fleuves d'Asie, organisé conjointement par l'Académie des inscriptions aux belles-lettres, l'INALCO et la Société asiatique. Ce colloque mettait en effet l'accent sur des constantes. Et si, de toute éternité, les fleuves avaient représenté tout à la fois une frontière et un moyen de communication, un facteur de confrontation et d'échange, un facteur de prospérité mais également un risque de dévastation. Et si, de toute éternité, ils étaient liés au pouvoir? C'est ce que nous allons examiner en compagnie de Pierre-Sylvain Filiosa, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je précise que vous êtes également indianiste et que vous êtes artisan. Vous avez été l'artisan de ce colloque dont les actes ont été désormais publiés. Peut-être faut-il commencer d'ailleurs par nous présenter la genèse de ce colloque.
Alors, je vous remercie de m'avoir appelé à parler de ce colloque qui s'est révélé très intéressant. Tous les 10 ans environ, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la Société asiatique et l'INALCO organisent un congrès, un séminaire de 2 jours dans les 2 institutions. La Société asiatique étant attachée à l'Académie, sur un thème qui couvre toute l'Asie. Et c'est ça qui fait l'originalité de ces colloques. Ce n'est pas avec la volonté de trouver une unité ou un thème commun dans l'univers du continent asiatique, mais avec le désir d'appeler au même micro, sur un thème donné, les différents représentants des différentes civilisations et cultures de l'Asie. Alors l'Asie est évidemment extrêmement riche et une diversité qui surprend. Je mets l'accent sur l'originalité de chaque culture. Et en Asie, il y a évidemment 2 cultures, 2 civilisations qui sont prenantes, qui ont une influence considérable, la civilisation indienne et la civilisation chinoise. Elles envahissent une grande partie du territoire. Mais il y a des quantités d'originalité qui se dessinent derrière, et même la civilisation dominante accapare toujours un élément du fond culturel d'une population particulière. C'est cet accent que nous voulons préciser. Et il n'y a pas beaucoup d'institutions non spécialisées qui peuvent dominer une aussi grande sphère, un aussi grand domaine. Donc, un colloque sur le thème des fleuves, et le fleuve est quelque chose qui intéresse. Ce colloque a été, j'ai trouvé, particulièrement réussi et il a beaucoup intéressé, il m'a personnellement beaucoup intéressé, parce qu'il a révélé 2 choses, un fait certainement réel, c'est que la civilisation indienne a apporté un capital d'imaginaire, d'imagination, de création dans le domaine des religions, dans le domaine de la poésie, qui a influencé toute l'Asie, particulièrement le sud-est asiatique, et puis vers le Tibet et la Chine même, est tombé sous l'influence du bouddhisme indien au départ. La Chine s'est révélée avoir un caractère tout à fait différent. Elle a montré qu'en Chine, eh bien, on s'intéresse moins à l'imaginaire, on est dans la réalité. Et la Chine apporte beaucoup d'éléments, depuis sa plus haute antiquité, sur l'administration du fleuve. Le fleuve, vous l'avez déjà pressenti, le fleuve est quelque chose qui est bénéfique, nourricier, et puis il peut être dangereux aussi. C'est la nature qui l'offre, et c'est la nature qui commande dans ce domaine. Alors, l'homme vit au bord d'un fleuve, il est bien obligé d'y vivre et de choisir cet endroit, parce que la vallée du fleuve, le bassin du fleuve est l'endroit irrigué dont il tire toute sa subsistance. Le fleuve lui apporte beaucoup, il lui permet la communication, et c'est dans l'histoire le meilleur moyen de communication. Le fleuve a des débordements et l'homme essaie de faire ce qu'il peut et non pas ce qu'il veut. Il voudrait domestiquer le fleuve, il ne le peut pas toujours. Le fleuve commande la nature, commande et reste toujours la première. On dit l'homme propose, Dieu dispose, on peut aussi bien dire l'homme propose, la nature dispose. C'est le cas de ce qui est apparu de toute évidence au cours de ce colloque.
Alors que cela nous dit-il d'ailleurs, que les textes évoqués et les civilisations abordées nous disent-elles du rapport à la nature, précisément ?
Alors le rapport à la nature, il est donné, l'homme naît dans la nature, il en fait partie. C'est une des espèces, une des nombreuses espèces animales qui peuplent la planète. C'est sa chance de survie qu'il y ait des fleuves pour le nourrir. Et puis un fleuve a très souvent des crues. Et il y a un caractère particulier en Asie, c'est la présence de l'Himalaya, les plus hautes montagnes du monde. Et là, il y a une concentration de glaciers, il y a des climats qui orientent les pluies et qui viennent nourrir les glaciers. C'est l'Himalaya qui distribue les plus grands fleuves d'Asie et ceux qui ont nourri les milliards d'habitants du vaste continent.
Alors là, en l'occurrence, la nature en majesté de l'Himalaya est quand même confrontée à des projets prométhéens qui posent des questions géopolitiques majeures et que vous abordez dans ce colloque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, c'est peut-être l'aspect le plus important qui est apparu au cours de ce colloque. Il y a l'origine, les sources des fleuves les plus importants, et puis leur cours extrêmement long. L'Indus, c'est 3000 km, la Ganga, c'est presque autant, le Brahmapoutre, c'est 2900 km, le fleuve jaune, le fleuve bleu, le fleuve rouge, le Mékong est peut-être un des plus longs et desservant le plus de pays. Ils prennent tous leur source sur le plateau du Tibet. Le plateau du Tibet est pour l'instant dominé, gouverné par la Chine.
Et il y a beaucoup de projets qui concernent les fleuves, précisément.
Et évidemment, la Chine pense beaucoup à administrer les fleuves. Alors, elle déclare qu'il y a 20% du débit des grands fleuves qui coule sur son territoire. Elle minimise certainement un peu, on évalue plutôt à 30%, mais il ne faut pas oublier que toute l'eau recueillie et qui descend jusqu'aux océans un long circuit en dehors de Chine. Et que là, ils sont alimentés aussi par une très grande quantité de pluie en dépendance du climat. Il y a le phénomène asiatique de la mousson qui est périodique et qui détermine justement certaines de ces crues très puissantes des grands fleuves. Alors, la Chine ne commande pas la mousson, elle ne commande pas les grandes crues de la Ganga ou du Mékong ou du Brahmapoutre. Le Brahmapoutre est la rivière, le fleuve, qui pose le plus de problèmes. Il fait vivre un État, une nation, le Bangladesh. Complètement. Le Bangladesh est soumis à deux pressions. Il y a l'arrivée du Brahmapoutre sur son territoire qui apporte un énorme débit d'eau qui fertilise l'ensemble, toutes les terres et qui apporte eau et limon et qui fertilise toutes les terres du Bengale, du Bangladesh et du Bengale
voisin
indien. Mais il y a aussi la pression de l'océan qui remonte et qui, en période de mousson, dévore la côte sud du Bangladesh. Alors, avec les eaux du Brahmapoutre et la pression de l'océan, eh bien, le terrain est à peu près stabilisé. Mais si l'on fait une modification importante à ce régime, et en particulier par des travaux et par des barrages sur le Brahmapoutre, si on diminue son débit, il y aura d'abord moins de limon qui arrivera, et puis la mer, le golfe du Bengale, va progresser, dévorer des côtes. Le territoire du Bangladesh est à une très faible hauteur et il y a de très grandes étendues de terre qui sont à peine à un mètre au-dessus du niveau de l'océan. Donc c'est quelque chose qui peut disparaître s'il n'y a pas une défense énergique. Alors la défense est naturelle. Est-ce que l'homme peut la modifier? Alors il y a des projets d'une démesure, des projets chinois
totalement titanesque. Je crois que ça vaut la peine de les décrire parce qu'on prend la mesure de leurs ambitions lorsqu'on les décrit factuellement.
Oui. Alors, il y a deux choses. Les choses qui existent déjà, les barrages. Et il y a des barrages à visée hydraulique qui sont très importants. Il y en a un assez grand nombre déjà sur le cours du Brahmapoutre et sur le cours d'autres rivières comme le Mékong ou l'Indus. Que j'ai oublié de mentionner, je crois, c'est aussi une des sources les plus importantes de la fertilité et de la vie dans tout le continent indien. Le Brahmapoutre, qui d'ailleurs a trois noms, au Tibet on l'appelle Tsangpo, il s'appelle Brahmapoutre au sortir du Tibet. Brahmapoutra est un nom sanskrit. Et puis, quand il arrive sur le territoire du Bangladesh et qu'il se mêle dans le delta par un très grand nombre de canaux et de vaisseaux naturels, il se mêle au delta du Gange. À ce moment-là, le cours principal du Brahmapoutre s'appelle Jamuna. Ce qu'il ne faut pas confondre avec la Yamuna, qui est un grand affluent du Gange, la Yamuna qui passe à Delhi en particulier.
Alors ces projets chinois sur le Brahmapoutra.
Le projet chinois, à part en dehors des barrages, qui sont déjà un danger, il y a une idée de renforcer l'approvisionnement d'eau du fleuve jaune, du Huanghe, et du Yangtze-Kiang aussi d'ailleurs, mais c'est le Huangho qui a le débit le plus irrégulier et qui quelquefois provoque, soit par des crues, provoquant des inondations, soit par des périodes de sécheresse, qui déterminent des famines sur de très grands territoires. Alors la Chine a besoin d'un supplément pour renforcer ces deux grands fleuves. Il y a un projet qui est unique, encore à l'état de projet, mais il est déjà entré dans les mains des ingénieurs et des décideurs.
Oui, ce n'est pas une rêverie, c'est ça qu'il faut dire.
Alors le projet, eh bien, c'est qu'il se trouve qu'il y a un endroit au sortir du Tibet où les trois fleuves, Brahmapoutre, Ganga et le troisième... Enfin, il y a deux fleuves qui vont en Chine, le Mékong et la Salwen. Le Brahmapoutre est le principal et c'est celui qui a le plus de débit, le plus puissant. Il y a un endroit près sur le territoire de la Chine, pas très loin de la sortie de ses frontières, où il y a une distance minimale entre les différents fleuves. Alors distance minimale, mais aussi différence d'altitude. Parce que le Brahmapoutre, quand il s'apprête à sortir de l'Himalaya, sortir des montagnes, a des chutes extraordinaires. Il descend de 1500 mètres sur une longueur de 100
kilomètres. Oui, du coup, il serait trop bas. Alors, comment voudrait-il résoudre ce problème ?
L'idée chinoise serait de faire des canaux reliant le Brahmapoutre au fleuve de Chine. À travers les montagnes. Alors c'est un projet démesuré. Est-ce que ce sera réalisé ? Mais c'est quelque chose qui risque de modifier profondément le régime hydrographique du continent tout entier et, disons, principalement de l'Inde et du Bangladesh. La Chine a un autre projet tout aussi démesuré, peut-être encore plus démesuré, c'est d'irriguer le désert du Taklamakan. Là, il faudra faire à peu près 1000 km de canal souterrain, faire exploser des montagnes. Et on parle même d'utiliser l'énergie atomique pour provoquer des explosions. C'est quelque chose d'inimaginable, mais que l'on dit maintenant, avec la technologie d'aujourd'hui, réalisable.
Mais qui semble s'inscrire, c'est là tout l'intérêt d'un colloque où il y a des gens de spécialités différentes, s'inscrire dans une mentalité chinoise ancestrale, puisque j'ai lu dans l'une des contributions que une des figures mythiques chinoises, Yu le Grand, est celui qui organise l'espace, en organisant non seulement sa topographie, mais en organisant les fleuves. Tant et si bien que c'est une idée qui semble naturelle à leur culture, d'agir sur cet environnement et de le répartir. C'est-à-dire que Yu le Grand n'est pas quelque chose de divin qui s'impose aux hommes. Non, c'est un Chinois qui organise son espace.
Alors, l'organisation de l'espace a été attribuée à un personnage qui est peut-être assez très mythique, mais il y a une réalité historique, c'est que le pays a été organisé dès une très haute antiquité. Il a été organisé en dépendance des fleuves. C'est en fonction du cours des fleuves et de leur position et de leur géographie. Et il est assez caractéristique de voir dans la littérature chinoise la plus ancienne un certain nombre de traités de géographie qui expliquent simplement quels sont les fleuves, quelles sont les régions où ils coulent et qui propose les divisions, les grandes divisions administratives qui ont fait l'Empire chinois dès l'époque des royaumes combattants et dès l'époque de la fondation de l'Empire, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'on attribue à Yu le Grand était déjà là, était fixé.
Il y avait une seconde grande idée que je trouve fascinante, c'est une organisation de l'espace davantage qu'en Occident ou en Inde ou ailleurs, une organisation entre un centre et une périphérie. Tant et si bien que l'on comprend que si on voit le monde et la nature comme cela, eh bien il est naturel que les fleuves convergent vers le centre, non ?
La périphérie que vous évoquez, elle a été toujours menacée et l'Empire chinois a toujours eu à s'en défendre. Alors, il n'y a pas que les Mongols, il y avait d'autres populations, mais il y a eu des populations nomades qui se sont fixées en certains endroits et qui ont servi de marche protectrice aux frontières de la Chine. C'est le cas des Tangouts. Au nord de la Chine, entre l'Empire mongol et l'Empire chinois, il s'est trouvé pendant 2 siècles, à peu près, dans une période de grâce, il s'est trouvé un rempart contre les pressions des nomades extérieurs qui voulaient venir vers le territoire de la Chine. Alors c'est le cas de cette population qu'on appelle Tangout, qui a sa grande originalité et qui a fondé la ville de Karakoto au bord d'une rivière qui est appelée la rivière Noire. D'ailleurs, Karakoto, c'est le nom de la ville, ça veut dire la cité noire. Dans la culture des Tangouts, comme dans la culture mongole d'ailleurs, par convention, l'eau est considérée comme noire. Donc, il y a un fleuve noir qui coule et qui approvisionnait la Karakoto en eau. La ville a été prospère pendant 2 siècles, mais il y a eu Gengis Khan, le Mongol, qui a recouru à ce qu'on appellerait maintenant un crime de guerre, c'est-à-dire de faire des barrages pour couper l'approvisionnement en eau de la ville. Je ne sais pas quelle en était la population, mais enfin une population qui s'est trouvée exsangue et qui a été obligée de capituler en période de famine. Et Gengis Khan a pu raser la ville. Et après, ça a été la disparition de l'Empire Tangout.
Mais ce qui souligne bien évidemment l'importance géopolitique de l'eau. Je vous propose qu'on quitte quand même, que l'on quittions la Chine pour nous rendre en Inde et découvrir une toute autre vision des fleuves, beaucoup plus politique, religieuse et sacrée.
Alors, on ne précise pas pour ces colloques exactement les aspects du thème qu'il faut traiter. Chaque spécialiste vient apporter sa pierre et bien toutes les pierres, pratiquement toutes les pierres relatives à l'Inde et même au sud-est asiatique ont été dans le domaine de la religion ou de l'imaginaire. Alors il y a la poésie, évidemment, on a tiré beaucoup de la poésie, on a tiré beaucoup d'inspiration des fleuves et une curiosité, c'est qu'il y a 2 aspects de l'eau dont l'homme vit. Il y a les eaux dormantes, les eaux d'un lac, un lac naturel ou un lac artificiel, et puis il y a l'eau courante, celle du fleuve. Alors on a ce phénomène, c'est que dès une très haute époque, dès l'époque indo-européenne, on considérait qu'il y avait 2 sortes de fleuves. Il y avait le fleuve dormant, il y avait l'eau dormante qui était exprimée par alors, un terme indo-européen qu'on reconstitue comme ayant donné par exemple le grec udor, le sanskrit var, qui ce sont des mots qui sont au neutre, au genre neutre. Et puis il y avait l'eau courante, l'eau active qui elle est a toujours été féminine. C'est un petit peu l'origine du féminin de la Seine qui coule devant nous.
La Marne.
La Marne qui est la mer.
Dit que ce serait la mer.
Qui est la mer, Matrona. Donc nous avons notre matrone et c'est une fonction nourricière que le français a gardée jusqu'au bout, comme la plupart de ses rivières. Mais
oui, il y a un mais, parce qu'il y a aussi
Tibre,
le Rhin, le Danube, le Tigre.
Le Tibre s'appelait Albula, la rivière blanche, et c'était féminin à l'origine.
Alors que s'est-il passé ?
Et puis, eh bien, ce sont les Romains qui ont eu l'idée, qui ont masculinisé les rivières. Et ils ont fait le Tibre, et puis ils ont ajouté alors la région de France qui a été le plus sous l'influence romaine, c'est évidemment le sud-est.
Le Rhône.
Et le Rhône, vous avez compris, le Rhône est masculin. Alors, on note que les régions frontières, qui sont des régions où le fleuve est utile et où il constitue une défense. Donc, il a besoin d'un caractère mâle. Donc, les fleuves comme le Rhin, le Danube, le Rhône en France, et on en trouvera beaucoup d'autres dans le monde, sont masculins. Alors, c'est, je crois, le latin qui a poussé la masculinisation et le machisme, si je peux dire, jusqu'au bout.
Oui, parce que semble-t-il aussi, c'est un reflet de l'organisation sociale. C'est-à-dire que selon le genre que l'on donne à tel ou tel fleuve, on serait dans telle ou telle époque marqué par un patriarcat plus ou moins important.
La représentation classique du fleuve, la sculpture de la place Navona à Rome, ce sont quatre patriarches, quatre vieillards, nobles vieillards, très belle sculpture, mais ça ne représente pas beaucoup, ça ne représente pas du tout ce que sont les vrais fleuves d'Asie. En Asie, les fleuves sont féminins. En Inde, tous les fleuves sont féminins. Il y a une exception, vous me direz, qui est l'Indus. Mais l'Indus est par accident masculin. À l'origine, il est féminin, Sindhu, et c'est la forme sanscrite du nom de l'Indus. Sindhu a deux sens. Il est féminin et il signifie la rivière, le fleuve, et masculin, il signifie l'océan. C'est la vision classique de l'Inde. Alors, la rivière indienne, c'est la Ganga. Elle s'appelle Ganga, elle ne s'appelle pas Gange. Et c'est pour quelqu'un qui visite l'Inde, qui parle à des Indiens, qui a un contact avec des Indiens, eh bien, évidemment, il apparaît que la Ganga est la mère Ganga. Le Mékong, qui a une importance énorme dans le sud-est asiatique. Alors, Mékong signifie Ganga, mer Ganga. Mé, c'est la mer en Khmer. Kong, c'est Ganga. C'est la domination, la colonisation qui l'a masculinisé.
Alors, à travers cette évocation des noms de fleuves, on a déjà fait un petit aller-retour entre l'Orient et l'Occident. Il y a une communication remarquable à cet égard sur la légende du roi Gangès, fils du Gange. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que là, c'est une véritable enquête.
Oui, c'est une curiosité. Alors, Philostrate, un écrivain grec du IIIe siècle, a raconté, a fait un récit de voyage, le voyage d'une sorte de thaumaturge, Apollonios de Tyane. Alors, est-ce que c'est entièrement imaginaire ? Est-ce qu'il y a une base réaliste ? Et est-ce que le caractère réaliste correspond à de véritables observations d'un véritable voyageur ? Puisqu'on ne peut pas avoir la certitude que Apollonios ait réellement pénétré sur le sol de l'Inde. Et on ne sait pas comment Philostrate, quelles ont été les sources exactes de Philostrate. Mais c'est un fait que dans la mythologie indienne, eh bien, on peut trouver quelques éléments qui ressemblent. Alors, il y a évidemment le nom Gangès, mais Gangès est un roi, et c'est le fils d'un... je ne sais plus qui, mais...
Bah, il est présenté comme le fils du... Bon, peu importe, de toute façon.
Peu importe, c'est Gangès, le... le personnage. Alors c'est un roi, c'est un géant qui mesure 5 mètres de haut et qui apporte d'abord de très grands bienfaits à son pays parce qu'il il détourne la Ganga, où il détourne le Gange, puisque dans cet ouvrage, eh bien, le Gange devient un être masculin. Il détourne son cours pour le polisser, pour le rendre moins dangereux. Et la Ganga, il faut l'avoir vue pour y croire, mais la Ganga a un débit extrêmement puissant. C'est impressionnant. Période de crue, il est impossible de remonter le courant. Donc le fleuve peut être dangereux, surtout dans la région de son delta, mais Ganges l'aurait domestiqué et aurait permis l'irrigation de la magnifique vallée gangétique qui fait vivre des millions d'hommes.
Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'après ses travaux, il devient un roi. C'est-à-dire que finalement, la fonction souveraine est associée à la capacité...
Le roi, c'est une fonction de protéger. Sa fonction est de protéger son domaine. Donc, il le fait et il réussit admirablement. Il apporte grand bienfait. Pour quelle raison, on ne le sait pas, mais il est assassiné. Et après l'assassinat de Ganges, eh bien, le pays entre en déclin. Et c'est ce déclin qui est présenté un peu comme une conséquence de la mesure, du détournement, de l'aménagement qui a été apporté sur le fleuve. Il y a toujours l'idée que c'est le fleuve est dangereux, mais c'est dangereux d'intervenir. Et cette idée est très ancienne. Alors elle est déjà présente, et ça peut être un phénomène indien, mais peut-être universel.
Oui, parce que dans de nombreuses références, on voit que la fonction souveraine est souvent liée à des événements liés au fleuve, certainement parce que le fleuve est très important à cette époque, mais aussi probablement en raison de son caractère sacré. C'est-à-dire que le souverain à l'époque, j'imagine, est quand même plutôt, tient plutôt son pouvoir, j'allais dire du ciel, mais c'est une vision un peu occidentale, ou monothéiste, je ne sais pas, enfin en tout cas de pouvoir surnaturel, il en est doté, et ça se traduit souvent par des événements relatif au fleuve, soit qu'il le dompte, soit qu'il tire son pouvoir du fleuve, et peut-être vaut-il le coup d'examiner certains de ces événements et dans leur diversité.
Alors, les mythes attachés à l'origine de la Ganga et à son cours et ses vertus sacrées n'apparaissent pas dans l'ouvrage de Philostrate. Il y a une chose qui paraît étrangère, mais il y a des héros dans la mythologie indienne qui peuvent faire penser au personnage de Philostrate. Là, l'auteur de cette intervention a pensé à un des plus grands héros de l'épopée du Mahabharata. Le Mahabharata, c'est ce que je dois le rappeler, c'est une épopée de quelques 100 000 strophes de quatre vers. De quatre octosyllabes. C'est un ouvrage démesuré, mais qui contient toute la culture sanscrite de l'Inde, et qui est un livre encore couramment, enfin traduit dans toutes les langues de l'Inde, couramment lu, couramment représenté au théâtre, au cinéma, à la télévision. C'est quelque chose qui est un peu le livre sacré de l'Inde avec l'autre épopée du Ramayana. Alors, dans le Mahabharata, il y a un héros bienfaisant qui est Bhishma. Bhishma, sa naissance est déjà tout à fait extraordinaire, mais c'est un héros très puissant qui prend parti, disons, du mauvais côté dans la guerre qui affronte deux familles de cousins se disputant le pouvoir. se disputant le pouvoir et se disputant le pays, parce qu'ils entrent dans une guerre qui fratricide, mais qui va ruiner tout le pays, et même le vainqueur, eh bien, il va tout de suite monter au ciel, au paradis. Il n'aura pas à profiter et il n'apportera pas de prospérité définitive au pays. C'est une guerre qui provoque la ruine et l'on dit que la terre avait besoin de s'alléger parce qu'il y avait trop d'hommes sur elle. Et une guerre est arrivée pour résoudre le problème. La terre a été allégée et puis nous sommes encore là.
Ne dites pas ça alors que beaucoup de gens ont des pensées apocalyptiques aujourd'hui pour sauver la planète.
Alors il y a un thème, évidemment, comme vous y avez pensé, il y a un thème, automatiquement, on pense à l'intervention humaine sur la planète, à tous les points de vue.
Alors, il y a aussi quelque chose, parce que je voudrais vous faire rebondir là-dessus, le Mahabharata, donc un grand poème épique, le rôle épique du fleuve, la façon dont il a une importance dans des rites initiatiques, dans la façon de repérer les héros et les rois à venir, la façon dont il permet aussi de franchir une frontière qui n'est pas physique, mais une frontière surnaturelle.
Alors la frontière surnaturelle, elle était franchie dès les débuts, dès l'origine. Le mythe de la Ganga n'est pas attachée à un rite initiatique. Elle est plutôt attachée au rite, aux funérailles, au rite de la mort. Et ceci en particulier dans le centre de Bénarès. Là, il y a ce qu'on appelle les ghats, quelque chose des marches qui ont été dessinées, taillées pour descendre dans la rive du fleuve. Alors c'est là que l'on vient brûler les morts et que l'on disperse, que l'on va apporter les cendres dans le fleuve pour qu'ils se dispersent. Ceci en vertu de en raison de la vertu purificatrice du flot de la Ganga. La Ganga est évidemment nourricière, ça c'est sa fonction naturelle, mais elle est aussi, en tant que déesse, elle est purifiante. Alors la Ganga est totalement divinisée. Divinisée au point qu'on en fait une déesse extrêmement puissante qui occupe le ciel, la terre et les mondes souterrains. Au ciel, elle a trois noms, elle aussi, comme le Brahmapoutre. Au ciel, elle s'appelle Mandakini. Sur terre, elle s'appelle Ganga. Et dans les mondes souterrains, elle s'appelle Bhogavati. Alors, elle était au départ une déesse vivant dans le ciel. Mais un roi a pratiqué une ascèse redoutable, lui donnant le pouvoir de convaincre la Ganga, de convaincre la déesse de descendre sur terre. Et il désirait qu'elle aille même dans les mondes souterrains, parce qu'il avait ses ancêtres, les fils de Sagara, les mille ancêtres, qui étaient descendus dans les mondes souterrains, avaient été réduits en cendres par le regard d'un sage ou d'un ascète, et dont les cendres n'avaient pas reçu les rites funéraires, et qui par conséquent étaient des âmes en peine. Donc pour les purifier, il a décidé de faire descendre la Ganga jusque dans les mondes souterrains. Il fallait d'abord la faire descendre sur terre. Alors, la Ganga était par nature une déesse orgueilleuse qui se croyait supérieure à tous les dieux. Elle a voulu faire disparaître et entraîner dans son flot le dieu Shiva. Et le dieu Shiva pratiquait l'ascèse lui aussi sur l'Himalaya. La Ganga est arrivée avec toute sa force. Mais Shiva a étendu ses mèches de cheveux, ses tresses, et a emprisonné la Ganga. Donc,
si bien qu'elle est tombée en petites gouttelettes plutôt que comme un flot.
Elle est restée prisonnière d'abord, prisonnière, et on représente souvent la Ganga sous la forme d'une petite figure de déesse sur la tête d'une image de Shiva. Le roi, pour purifier ses ancêtres, a de nouveau pratiqué la cèse pour obtenir que Shiva relâche la Ganga. Alors Shiva a accepté de la relâcher progressivement en maîtrisant son flot, mais la Ganga est allée, en tombant sur terre, déranger un sage du nom de Jannu qui l'a tout simplement bu à mesure qu'elle tombait sur terre. Alors il a fallu encore quelques siècles d'ascèse et de souffrance pour le roi, pour qu'il obtienne de Jannu qu'il relâche la Ganga. Et Jannu a accepté qu'elle sorte de son oreille, un tout petit orifice. La Ganga est arrivée sur terre, elle a eu le droit elle a été poursuivie jusque dans les mondes souterrains. Voilà le grand mythe. Mais...
Magnifique.
Tout ceci...
Magnifique, magnifique. Alors là, la Ganga est une divinité.
Est là pour purifier, pour le rite des morts. Si bien que l'on dit maintenant, et la croyance est universelle dans toute l'Inde, qu'il faut mourir à Bénarès pour avoir une fin heureuse et un avenir, une bonne renaissance. Donc...
Alors là, le fleuve est une divinité, mais dans d'autres civilisations, alors progressivement, cela change. Enfin, j'imagine que lorsqu'on touche, parce que le livre évoque aussi le Proche-Orient, on descend comme ça à flanc de montagne, on traverse la Perse, et puis on finit par arriver au Proche-Orient. Et alors là, les fleuves continuent à avoir un caractère sacré, mais évidemment, ils ne sont plus divinisés.
Alors là, bon, il y a une histoire, il y a une légende en Turquie qui est amusante, qui est très curieuse. C'est dans la ville de Hama, il y avait un personnage qui avait construit une noria, mais il n'y avait pas d'eau pour la faire tourner. Donc il est allé chercher dans le Nil, et avec une formule magique, il a rempli quelques bouteilles. Et puis, sur le chemin du retour, plusieurs de ces bouteilles se sont cassées. Chaque fois qu'une bouteille se cassait, cela créait un lac. Et puis, à la fin, la dernière bouteille s'est cassée et ça a créé l'Oronte, qui alors a un cours du sud vers le nord et qui se retourne brusquement vers l'ouest. Alors, on l'appelle le fleuve... retourner.
Le fleuve rebelle, le fleuve retourné, il y a toute une série comme ça.
Ceci, eh bien, il est arrivé jusqu'à alimenter la Noria, mais le personnage qui était juif, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a fallu un juif pour cela, mais n'a pas vu sa Noria fonctionner parce qu'il a été condamné à mort et il est disparu trop tôt. C'est son fils qui a fait marcher la Noria.
En se convertissant.
En se convertissant.
En invoquant le nom de Muhammad, du coup la Noria fonctionne, c'est bien ça ?
Voilà.
Ce qui montre là aussi la nécessité d'établir un lien sacré avec le fleuve nourricier, puisque le but de la Noria, c'est d'irriguer, hein, si j'ai bien compris.
C'est d'irriguer.
L'ensemble d'ailleurs de cette partie du livre, on arrive presque au bout de l'émission, mais il faut le dire, est extrêmement évocatrice. C'est-à-dire que les descriptions qui sont faites des villes du Proche-Orient avec les caravansérails, des monastères, des lieux de plaisir aussi, car le fleuve peut signifier aussi la marge, l'endroit où on se réfugie pour avoir des comportements contraires à la religion.
La fraîcheur de l'eau dans des pays exotiques.
Je n'ose pas appeler ça des guinguettes, mais on sent que du côté de Mossoul ou de Bagdad, il pouvait y avoir sur le fleuve des choses qui ressemblaient à des guinguettes.
Partout où il y a un fleuve.
Très bien. Est-ce que vous voulez apporter un mot de conclusion?
Alors,
pour inciter nos...
Je peux apporter juste un mot qui rattache d'ailleurs un petit peu disons à la civilisation occidentale, c'est qu'il y a un curieux texte de Hippolyte, saint Hippolyte, qui est une réfutation de toutes les doctrines, de toutes les hérésies, et qui en particulier réfute l'hérésie qu'est la croyance de l'Inde. Alors la croyance de l'Inde, bon, il dit quelques mots qui représentent authentiquement des idées indiennes, mais il mentionne un lieu particulier et une rivière particulière qu'il appelle Tagabena. Tagabena est identifiable avec une Tungavena qui est mentionnée dans le Mahabharata par exemple, et dont le nom sanskrit à l'origine est Tungabhadra. Et la Tungabhadra est une rivière bien connue. Alors, Hippolyte parle d'une communauté de brahmanes qui fait de la philosophie et qui raisonne sur sur la lumière, l'esprit de lumière et l'absolu, au bord de la Tungabhadra, au sein d'une communauté particulière de savants. Alors, ça, c'est une originalité, je crois, importante de l'Inde, parce que toute la culture sanskrite qui s'est exprimée en sanskrit émane souvent de milieux de ce genre. À Bénarès, qui est un des grands centres, et puis dans beaucoup d'autres, et au bord de toutes les rivières de l'Inde, il y a souvent une communauté qui est établie. Il y a le site prestigieux de Hampi, au Karnataka, dans le sud de l'Inde, dans la région de Bangalore, a eu du 14e au 16e siècle, a accueilli une communauté de grands penseurs et de plusieurs qui ont fait provoquer une renaissance de la culture védique. C'est une chose très importante pour la culture de l'Inde. Et puis, je me suis attardé sur une petite rivière, l'une des plus modestes de l'Inde, qui s'appelle Nila. La Nila est une rivière du Kerala. Elle a 200 km de long. Vous voyez qu'elle est très modeste, mais elle est pérenne. Et il y a eu une communauté d'astronomes et mathématiciens qui se sont installés et qui ont travaillé et réfléchi sur plusieurs siècles, disons du 14e au 18e, et qui ont formé une école de mathématiques qui était en progrès et en avance sur beaucoup de découvertes mathématiques de l'Occident.
Mais écoutez, c'est une très belle conclusion, car cela prouve que l'on peut tout à la fois avoir une vision poétique, sacrée, respectueuse du fleuve, des fleuves et de la nature, et en même temps se passionner pour les sciences et essayer de le décrypter avec d'autres outils. Et probablement est-ce là la vraie voie de la sagesse, cette réunion entre les qualités de l'Orient lointain et celle désormais principalement de l'Occident, que de réunir ces deux façons d'appréhender le monde. Mais n'est-ce pas aussi ce que vous avez fait dans ce colloque, en réunissant des savants de diverses disciplines et de diverses spécialités géographiques, réunir, si je continue sur ce type de raisonnement, c'est aussi la fonction de l'Institut. Réunir en un faisceau des connaissances de diverses natures. Ouais, merci.
C'est notre vocation et merci beaucoup.
De poursuivre cette œuvre. Et j'incite vraiment nos auditeurs à se plonger dans ce colloque que nous n'avons pu que survoler tant il est riche. Fleuve d'Asie, centre de civilisation. Colloque sous la direction de Pierre-Sylvain Filosa et Michel Zinc. Je parle de l'édition, et donc c'est disponible, je pense, sur le site de l'Académie des inscriptions aux belles-lettres, mais j'ai vu aussi dans de nombreuses librairies et librairies en ligne. Merci encore.
Merci beaucoup.
Merci.